J'ai jamais joué rugby dans ta vie. Ferme ta gueule.
Bonjour à vous. Bienvenue dans ce 8e numéro de 15 bras 15 jambes. Au sommaire de ce numéro, on va finir de solder les tournois qui étaient en cours, comme le Pro Rugby USA et le Super 18. Mais surtout, on va s'intéresser à la saison 2016-2017 de rugby pour l'hémisphère nord. Commençons de suite.
L'impact moral français est total. Les Blacks sont à genoux. Ils ont le moral sur les couilles. Ils n'en peuvent plus. Les Français sont transcendants.
Donc pour bien commencer, nous allons parler du Pro Rugby USA. Alors, qu'est-ce que le Pro Rugby USA? Je crois que je vous en avais parlé. Donc c'est pour l'instant un championnat de 5 équipes qui se passe aux États-Unis. Je crois qu'à d'ici peu de temps, je crois qu'ils souhaitent rajouter aussi une équipe canadienne, qui est aussi un championnat élite hyper réduit. J'en avais aussi déjà parlé, donc c'était 4 équipes. Donc là, nous avons 5 équipes. Donc nous avons les San Francisco Rush, les San Diego Breakers, les Sacramento Express, les Ohio Aviator et les Denver Stampede. Donc comme il n'y avait que 5 équipes, ils ont fait plusieurs matchs aller-retour. Donc chaque équipe a joué 12 matchs. Et le grand vainqueur de ce premier tournoi, c'est les Denver Stampede avec sur 12 matchs joués, 12 victoires, 10 victoires et 2 défaites. Après, nous avons les Ohio Aviators avec 9 victoires, 3 défaites. Après, je donnerai le décompte de points. San Diego Breakers avec là-dessus on chute 4 victoires. San Francisco Rush avec 4 victoires aussi et les Sacramento Express avec 3 victoires. Ce qui nous fait au classement 48 points pour Denver, 47 pour les Ohio Aviators et puis après le gap. Donc 25 points, 24 points et 18 points voilà et 18 points donc pour Sacramento. Voilà, je corrige mon document. Donc voilà, comme je le dis souvent, vous retrouvez toutes les informations sur le document qui suit ce podcast. Alors visiblement, le niveau avait l'air sympathique sur ce nouveau championnat. Il y a eu quelques recrues stars, on va dire. Il y a eu Nguenia de Biarritz. Il y a eu un frère bergamasco aussi, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc le niveau est plutôt sympa, ça reste moins que les championnats géorgiens pour l'instant, etc. Bucarest, tout ça. Mais bon, le niveau, ce qui paraît sympa, ça mérite de s'y pencher. On verra. J'espère que tout ceci élèvera le niveau du rugby nord-américain, voilà. Qui est déjà pas mal, mais plus sur les A7, ils sont meilleurs qu'à 15 pour l'instant. Même s'ils ont fait beaucoup d'efforts. On verra à long terme, mais j'espère qu'ils vont bien avancer, quoi. Donc voilà. C'était tout pour le Pro Rugby USA. On verra pour l'année prochaine. Maintenant, on va passer au un peu plus gros du morceau, dont le Super 18. J'en avais déjà parlé légèrement en termes de classement. Donc là, maintenant, le championnat est terminé, donc je peux vous faire le compte-rendu final. Donc c'est très simple, déjà je vais commencer par les poules intermédiaires. Donc la poule australienne, on avait les Brumbies 43 points, les Waratahs 40 points, les Rebels 31 points, les Reds 17 points et les Forces 13 points. Pour la Nouvelle-Zélande, les Hurricanes 53 points, les Highlanders 52 points, les Chiefs 51 points, les Crusaders 50 points, ça fait beaucoup de points, et les Bulls un peu plus loin 39 points. Pour la poule Afrique 1, nous avons les Stormers 51 points, les Bulls 42 points, les Cheetahs 21 points et les Sunwolves, l'équipe japonaise, 9 points. Après, nous avons les Lions pour la poule Afrique 2 avec 52 points, les Sharks 43 points, les Jaguars dans l'équipe Argentine 22 points. Il s'est plutôt bien débrouillé pour l'instant. Et les Kings, je crois que c'est la nouvelle. Je pense que c'est la nouvelle franchise d'Afrique du Sud. Il s'est rajouté pour passer de Super 15 à Super 18. 9 points. Donc les nouvelles équipes n'ont pas forcément brillé. Sauf les Jaguars, je crois qu'ils ont fait une bonne fin de saison. Sinon, bon, bah, ça a été un peu plus pénible pour les autres équipes. Je pense surtout aux Sunwolves qui ont eu du mal. Bon, on verra l'année prochaine, mais je crois qu'ils vont bien renforcer parce qu'ils avaient fait une intersaison de à peu près 2 jours. Non, je rigole, à peu près 15 jours. Ils ont monté un peu l'équipe en catastrophe. Ils ont trouvé aussi l'entraîneur pas trop en catastrophe, mais un peu quand même. Donc, normalement, la saison prochaine, le niveau devrait être, eux, ils devraient avoir un bien meilleur niveau. On verra si les autres, ça, ils arrivent à. Surtout pour les Kings, je pense que j'ai un peu peur, mais on verra bien quoi. Donc maintenant, je vais faire les poules mêlées parce que donc c'était Afrique du Sud. C'était alors les deux Afriques du Sud l'un contre l'autre. Parce qu'on faisait les matchs aller-retour contre son équipe, je crois. Et après, on faisait les matchs. Ouais, c'est un peu compliqué. Et que les matchs contre les autres. Un match contre ceux de l'autre poule, je crois. Si ma mémoire est bonne. Ce qui fait au résultat qu'on avait 15 matchs joués. Je pense que c'est un peu compliqué le fonctionnement. J'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Ou sinon, renseignez-vous sur. Les règles du Super 18. Donc en poule mêlée Australie-Nouvelle-Zélande, nous avons donc les Hurricanes premiers. Ils avaient 11 victoires. C'est équipe de Nouvelle-Zélande. Les Brumbies, 10 victoires d'Australie. Les Highlanders, Nouvelle-Zélande, 11 victoires. Nous avons les Chiefs de Nouvelle-Zélande, 11 victoires. Les Crusaders, 11 victoires. Les Waratahs d'Australie, donc 8 victoires. Les Blues Nouvelle-Zélande, dans l'équipe de Nouvelle-Zélande, 8 victoires. 7 victoires pour les Rebels et les Reds, 3 et 2 pour les Forces. Ce qui fait 53-43, parce que en termes de classement, ils sont arrivés premiers de leur poule. Après 52-51, 50-40, 39-31, 17 et 13. Après, nous avons, c'était plus simple au niveau du classement, donc. Les Lions sud-africains, 11 victoires. Les Stormers, Afrique du Sud, 10 victoires. Afrique du Sud Sharks, 9 victoires. Les Bulls, Afrique du Sud aussi, 9 victoires. Les Jaguars, 4 victoires d'Argentine. Les Cheetahs, Afrique du Sud, 4 victoires. 2 pour les Kings, 1 pour les Sunwolves. Et à noter qu'il y a eu quelques matchs nuls. Il y a eu un match nul pour entre les Blues et les Reds pour la poule Australie-Nouvelle-Zélande, et match nul pour les Stormers, Sharks, Bulls et Sunwolves. Après, en termes de goal average, on va de... le meilleur goal average, c'est les Lions, avec plus 186. Bon, après, il y avait des équipes plus pourries dans leur poule, pour cette poule-là. Donc, pour la poule Afrique du Sud, c'était 186, et on va jusqu'à moins 402, pas mal. Pour les Kings, et après pour la poule Australie-Nouvelle-Zélande, on voit que c'est des équipes un peu plus rodées, on va de plus 170, qui sont les Crusaders, et pourtant qui sont que 5e, à moins 181 pour les Forces. Donc ça fait 10 points de différence à peu près par match, un peu plus, ouais. Donc classement final, donc c'est les Hurricanes, premier, Lions, Stormers, Brumbies, Highlanders, les Chiefs, les Crusaders, les Sharks, les Waratahs, les Blues, là maintenant, les Rebels, les Jaguars, Cheetahs, Reds, les Forces, les Kings et les Sunwolves, bon dernier. Donc, c'est assez simple, c'est les trois premiers, les premiers de chaque poule étaient qualifiés, après c'était les meilleurs seconds. Donc beaucoup, c'était les équipes qui ont le plus de points, après. Voilà, je me trompe. Donc c'est premier de chaque poule, c'est pour ça que les Brumbies passent avec 43 points. Et quoique ils seraient peut-être passés aussi, mais ils n'auraient pas reçu, je pense, à la maison. Oui, c'est ça. Donc c'est les Hurricanes, Lions, Stormers et Brumbies qui ont fini premier des poules que j'ai dit de 4 équipes. Et après, les meilleurs seconds, donc les Highlanders, les Chiefs, les Crusaders et les Sharks, qui ferment la marche avec 43 points. Donc... Après, nous allons passer au quart de finale. Nous avons eu donc Brumbies Highlanders au Geo Stadium de Canberra, 9-15 pour les Highlanders. Les Hurricanes ont reçu les Sharks dans leur stade dans le Whisper Stadium de Wellington, 41-0. Les Lions aussi ont reçu les Crusaders, 42-25 au Ellis Park Stadium de Johannesburg. Et les Stormers ont perdu à la maison 21-60 contre les Chiefs au Newlands Stadium de Cape Town. Pour les demi, nous avons eu au Westpac Stadium, toujours à Wellington, donc les Hurricanes contre les Chiefs, 25-9. Et les Lions ont gagné aussi à domicile au Ellis Park Stadium de Johannesburg, 42-30 contre les Highlanders, qui avaient joué la finale de l'année dernière. Donc par rapport à la finale de l'année dernière, les Hurricanes reviennent en finale, et donc finale 20-3 contre les Lions. Les Lions ont eu beaucoup de mal pendant ce match et ils ont bien été dominés par les Hurricanes. Donc, et la finale s'est passée au Westpac Stadium. C'est eux qui, c'est toujours le premier qui reçoit. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? C'était une saison un peu, encore un peu bancale parce que c'était la première de cette formule. Donc on peut pas trop pour l'instant faire des plans. On voit que les Jaguars ça monte bien. J'espère que l'équipe japonaise va bien monter. Surtout parce que comme c'est les seuls représentants de leur pool, moi je dis ce serait bien chiant qu'ils ne soient pas mieux représentés, mais bon, on verra bien. Après, alors en termes de meilleurs marqueurs, donc nous avons. Pour les trois premiers, ça sera Boden Barrett des Hurricanes avec 223 points, Damian McKenzie pour les Chiefs avec 199 points, et Elton Jenkins pour les Lions. Comme quoi, vous voyez, les Lions sont bien débrouillés, les Chiefs aussi, avec 190 points. Donc, j'ai eu l'occasion, pas de regarder des matchs, mais de regarder des résumés. Pour l'instant, voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal. J'ai surtout beaucoup regardé les Jaguars et les Sunwolves. On verra bien si l'avenir dira de bonnes choses aussi. Le niveau qui est un petit peu plus préoccupant, c'est le niveau de la des équipes australiennes qui est vraiment pas terrible. Les Force, les Reds et bon, les Rebels, dans une moindre mesure, n'ont pas été vraiment pas été bons. Et après, bon, les équipes sud-africaines, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Il y a une ou deux équipes qui se détachent, les Lions et les Stormers, mais après, le reste est un petit peu en dessous, quoi. Et surtout, vu les équipes qui sont en face, hein, c'est pas que c'est préoccupant, mais le niveau n'est pas forcément au rendez-vous. Voilà, c'était tout pour les championnats en cours. Le prochain championnat majeur, alors il pourrait presque rentrer dans la nouvelle saison, mais j'ai décidé de ne pas la rentrer. C'est le Rugby Championship, donc c'est le tournoi qui oppose Argentine, Australie, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, comme chaque année. C'est assez simple, ça court du 20 août au 8 octobre, et pour chaque équipe, nous avons donc plusieurs stades, à chaque fois on se déplace. Donc l'Argentine, c'est simple, jouera à Twickenham, à Londres. Match délocalisé contre, je crois que c'est l'Afrique du Sud. Donc coach toujours Daniel Urquada. Après ils joueront à River Plate, à Buenos Aires, comme dirait les... Et après ils jouent au Estadio Padre Ernesto Marte Arena. Après, nous avons donc l'Australie qui jouera au ANZ Stadium, au Suncorp Stadium et au NIB Stadium. Le premier se passe à Sydney, Brisbane et Perth. Coach, toujours Michael Checa. Après, la Nouvelle-Zélande au Westpac Stadium, donc à Wellington, le Waikato Stadium à Hamilton et le Amy Stadium à Christchurch. Steve Hansen, toujours coach. Et après, nous avons donc l'Afrique du Sud qui a changé d'entraîneur, maintenant c'est Alistair Coetzee. Alors, avec le Groundpoint Kings Park à Durban. Le Lotus Verst Left A Stadium à Pretoria et le Mbobela Stadium à Nelspruit. Donc voilà. Après, c'est un petit peu plus simple. Donc je vais vous faire un topo sur les joueurs. C'est pareil, bon, vite fait. Non, je vais peut-être pas faire un topo sur les joueurs en fait. Bon, il n'y a pas eu, je veux dire, à peu près de combien de personnes combien de membres sont le squad est représenté. Donc il y a 33 bonhommes pour l'Afrique du Sud. La plupart jouent bizarrement au Jaguar. C'est très bizarre. Nous avons un joueur des Brumbies qui est Thomas Kubeli. Voilà. près sur un qui sont sélectionnés. Sur le... Après, nous avons Atlético de Rosario. Bon, c'est une équipe argentine, du coup. Marco Kremer, 19 ans, tout de même. Et je crois à peu près que c'est tout. Après, il y a quelques équipes voilà, d'Argentine, et c'est tout. Après, pour l'Australie, le... Ah oui, pour l'Australie, non, c'est bon. C'est après qu'il y a... Le... si. Ah ben non, c'est bon, c'est ça. Donc, excusez-moi. Donc, pour l'Australie, nous avons 36 noms, pour l'instant, pour le squad. Donc, nous avons... Est-ce qu'on a des joueurs qui sortent un peu de l'ordinaire? Il y a Lopetti Timani, qui a pour l'instant zéro sélection, qui vient des Melbourne Rebels. Nous avons quelques Français dans la... qui sont sélectionnés. Nous avons Will Guenya. Nous avons l'ancien Toulonnais aussi, Quade Cooper, qui n'a pas retrouvé d'équipe pour l'instant. Nous avons Mandito de Toulon aussi, qui ne devait plus être sélectionné, mais finalement, voilà. Et nous avons, ah, c'est pareil, Adam Ashley Cooper, qui a été sélectionné. Et ça fait gueuler. Et nous avons aussi Drew Mitchell, voilà, Toulon. Voilà. Donc pas mal de vieux. En termes de joueurs jeunes, nous avons Tom... Robert Stafford qui est pilier pour les Waratahs. Nous avons donc Lopetti Mani, je l'ai dit parce que je suis passé à côté. Et nous avons en bas, tout en bas, Rhys Roger qui est arrière chez les Melbourne Rebels. La Nouvelle-Zélande, nous avons une équipe un petit peu plus petite, donc nous avons 32 bonhommes. Qui c'est qu'on peut rajouter? C'est simple, il y a Kane Himes qui est pilier pour les Chiefs, 27 ans quand même, pilier déjà un petit peu qui a déjà un peu du kilomètre. Après, on a pas mal de joueurs qui ont une sélection, et en termes de zéro sélection, nous avons Anton Liener Brown qui est chez les Chiefs et qui est centre, et voilà, c'est tout à peu près. Après, il y a pas mal de joueurs qui ont une ou deux sélections, donc comme je vous ai dit. Les équipes ont été un petit peu rajeunies. Après, chez donc l'Afrique du Sud, on a une équipe avec c'est le staff le plus, c'est les membres les plus petits, donc on a des joueurs avec pas beaucoup de sélections. Il y a eu pas mal de turnover, donc nous avons par exemple Malcolm Marx qui est pilier, 22 ans pour les Lions. Nous avons Bongi Mbumbamdi pour les Stormers avec une sélection par exemple. Nous avons comme un Français, nous avons aussi dans l'équipe, enfin au moins un, je voulais lire, je pense, le pilier Steven Kitschoff de Bordeaux, qui a 24 ans, donc pareil, qui a matière à évoluer. Nous avons Mikumzobo Notch, qui est flanker pour les Stormers, donc 0 sélection, 23 ans. Après, il y a pas mal de joueurs aussi qui ont moins d'une dizaine de sélections, il y en a énormément. Et je crois que c'est tout. Après, il n'y a plus de joueurs à zéro sélection. Et nous avons par exemple le retour de Johan Guzen, 24 ans, du Racing Metro, 6 sélections. Et Mornestein, bien évidemment, parce qu'on aime bien prendre les vieux qui ne valent plus rien, du Stade français. Il y a des joueurs aussi de équipe qui jouent en Angleterre, dont François Hogarth, des Worcester Warrior, et François Lowe de Basse, 46 sélections. Qu'est-ce que j'attends de ce Rugby Championship pour l'instant? Pas grand-chose. L'Australie a gagné l'année dernière, mais c'était une version raccourcie. Moi, je pense que, encore une fois, c'est la Nouvelle-Zélande qui va gagner. Je miserai peut-être... j'ai envie de miser un petit peu sur l'Argentine, je les vois bien faire 3e, ou bon, allez... Je vais mouiller, je les vois bien faire second. Australie, et je vois bien l'Afrique du Sud dernier. Je pense que leur staff est un petit peu jeune. Je pense qu'il va falloir attendre un peu. Je pense attendre l'année prochaine pour s'il se passe des choses. Mais je ne présume de rien. Espérons voilà, que le niveau soit relevé, surtout. Donc, c'est tout déjà voilà, pour le Rugby Championship. J'espère que vous regarderez ça aussi avec attention. Parce qu'après, on passera à la tournée d'hiver. Donc je reviendrai un petit peu plus tard. J'ai pas mis toutes les dates dans ce podcast, mais j'y reviendrai parce que je vais vous parler que des matchs de l'équipe de France. Écoutez, on va plutôt directement passer à la suite. plutôt que répéter 20 000 fois. Donc maintenant, on va passer à la reprise du championnat pour la saison 2016-2017, avec donc le 15 de France, top 14, Coupe d'Europe, etc.
On est content d'avoir battu cette équipe de Toulon. Ils nous ont pas respecté. Ils ont mis une équipe en bois. On a montré qu'on était capable de les battre.
Pour cette nouvelle saison, alors nous allons démarrer par le 15 de France. Donc plusieurs matchs à l'ordre du jour, je vais tous vous les faire. Donc pour le 15 de France, donc pour les hommes, nous avons nous avons France-Samoa à Toulouse à 17h45. Nous avons juste après, donc c'est dans le cadre de la tournée d'hiver, nous avons France-Australie à Saint-Denis le 19 novembre à 21h et le 26 novembre à 21h à Saint-Denis toujours, nous avons France-Nouvelle-Zélande. Donc la France a intérêt à bien s'accrocher sur cette tournée. S'ils veulent pas finir avec une seule victoire, parce que bon, contre les Samoa quand même, je dis pas que c'est simple, mais ça va quand même, on a les cartes en main. Contre l'Australie, je pense que c'est bon, faut voir, parce qu'on est à la maison. La Nouvelle-Zélande, ça est un petit peu plus compliqué. Après, nous avons le tournoi avec Angleterre-France à Londres le 4 février. Nous avons ensuite le 12 février France-Écosse, le 25 février Irlande-France, Italie-France le 11 mars et le 18 mars. Nous avons France-Pays de Galles. Pas de match en prime time cette fois. Enfin, du moins côté français. Et ensuite, nous avons une série de test matchs de juin en Afrique du Sud. Les lieux et les horaires sont forcément à confirmer, mais ils auraient lieu le 10, 17 et 24 juin. Donc cette année, donc normalement pour la saison qui vient, donc voilà, le 15 de France va affronter trois des plus grosses nations de l'hémisphère sud. Ça permettra de tester notre niveau et de voir si Guinoves va dans le bon sens. Voilà. Même si ça risque d'être un petit peu compliqué comme d'habitude, mais bon, ça fait quelques années qu'on est habitué à dire ça, donc on va pas trop en dire plus. Donc pour les féminines, il y a eu 3 matchs pendant cet été. Donc on a eu États-Unis féminines, donc États-Unis voilà France, donc 13 à 19. Il y a eu France-Angleterre 13-17 pour les Anglaises. Et par contre, un peu gros quignon, France-Canada 10 à 29. Ces matchs ont tous eu lieu début juillet. Ils ont eu lieu le 1er juillet donc pour France-États-Unis, le 5 pour Angleterre-France et le 9 pour Canada-France. Donc c'était très rapproché, je pense que ça a induit pas mal de choses. Donc après, on a un match de la tournée d'hiver, donc Angleterre-France encore, le 9 novembre. Peut-être qu'il y aura d'autres matchs qui doivent se rajouter, mais comme il n'y a rien indiqué, je ne pense pas. Le 3, 4 ou 5 février, nous avons Angleterre-France. Je crois que ces dates-là ont été arrêtées depuis, je suis pas sûr, parce que l'article n'est pas à jour. Je vous laisse regarder. Donc Angleterre-France, le 10, 11, 12 février, toujours France-Écosse. Le 24, 25, 26, Irlande-France. Le 10, 11, 12, Italie-France. Et France-Pays de Galles, le 17, 18, 19 mars. Et après, nous avons donc, du coup, ça j'y reviendrai un petit peu plus, un petit peu mieux. Nous avons du 9 au 26 août 2017, la Coupe du Monde de rugby féminin. Voilà, qui se passera en Irlande. Donc maintenant, à voir comment ça va se faire. Après, pour les garçons, bon, ben, c'est assez simple. Hein, y aura les championnats du monde tomberont le 1 juin 2017. Voilà, ils se passeront en Géorgie. Je vous dis pas les autres. Comment ça s'appelle ? Je vous dis pas les autres dates. C'est à peu près les mêmes que pour les hommes féminins. Ils se calent au même terme que aller-retour, etc. Je rate s'il se passe pas des trucs un peu spéciaux, mais pour les nos joueurs une spéciale, donc pourquoi s'emmerder. Ah, la France, ah si si, alors par exemple, la France, moins de 19 chez les hommes, au moins, ça s'est passé, j'ai pas trouvé le score, donc ils ont joué contre la Western Province, moins de 21, ils ont aussi joué contre l'Angleterre récemment, en Angleterre, ils joueront après l'Afrique du Sud, le 16 août, et le 20 août, ils joueront contre l'Italie, au Cap. Donc, allez, pour les moins de 18, alors ils feront la Coupe des Provinces à Marcoussis au fin octobre du 24 au 31, Et après, bah, c'est assez simple, ils feront pas, ils ont pas de tournoi, ils feront quelques matchs là, contre les équipes de l'hémisphère sud. Hein. Donc, ça c'était pour les hommes. Dans la France A7, alors ça sera un petit peu plus cool, il y aura plusieurs, alors il y aura deux étapes du rugby européen Grand Prix Series. Donc il y en aura un au mois de ah ben c'est passé déjà, c'était au mois de juillet ça. Il y a eu deux étapes, il y aura après, donc bon, les Rio forcément. Début décembre, Dubaï, mi-décembre, Afrique du Sud, c'est par étape là. Donc Wellington, après Nouvelle-Zélande, début fin février, du 28 au 29, c'est hyper court. Hein. Après nous avons l'étape en Australie de Sydney, qui est, ah, c'est mal rangé leur site, qui est du 4 au 5 février, peut-être que celui d'avant, peut-être au mois de janvier, il faut voir. Après nous avons début mars les États-Unis à Las Vegas. Après nous avons étape 6 Vancouver mi-mars du 11 au 12 mars au Canada. Nous avons Hong Kong qui est l'une des étapes les plus qui est l'une des meilleures étapes, je trouve les plus jolies à regarder. Donc à Hong Kong du 7 au 9 avril. Après nous avons Singapour comme 8e étape le 15 et 16 avril. 13 et 14 mai, nous avons l'étape de Paris. Et dernière étape, Londres, les 20 et 21 mai. Et après, nous avons les World Grand Prix, donc en Pologne, en France, en Russie et à Londres, à Exeter, donc qui auront lieu de juin jusqu'à mai. De juin jusqu'à juillet, pardon. Je me trompe. Donc après, pour les filles, il y a un petit peu moins d'étapes. Donc les dates sont à confirmer, et les lieux aussi, il y a à peu près 6 étapes, voilà, et il y aura une étape en France, Malemort, je ne sais pas où c'est pas très, dit comme ça, c'est pas terrible. Donc, voilà déjà pour les étapes des équipes nationales, maintenant on va passer aux 6 nations, donc ça commence le 4 février, avec Écosse, Irlande et Angleterre, France, et le lendemain nous avons Italie, Pays de Galles. Le 11 février, nous avons Italie, Irlande et Pays-Bas, Pays de Galles, Angleterre. Le lendemain, nous avons France-Écosse. Le 25 février, nous avons Écosse, Pays de Galles, j'ai du mal, Irlande, France et Angleterre, Italie. Le lendemain, hop, on fait le petit gap, on fait la petite pause, la petite trêve. On reprend le 10 mars avec Pays de Galles, Irlande, match en prime time. Nous avons après Italie, France et Angleterre, Écosse. Et pour finir, la dernière journée, Écosse, Italie, France, Pays de Galles et Irlande, Angleterre, pour finir le tournoi. Beau programme. Après, c'est un petit peu plus simple. Nous allons maintenant passer à la Champions Cup et à la Challenge Cup. Donc pour la saison 2016-2017, je crois que j'en avais parlé, les sélections avaient changé. Donc soit j'en reparlerai à la fin de saison avec les matchs qualificatifs. Mais donc les poules, c'est poule 1, Racing 92, Glasgow Warrior, Leinster, Tiger, Munster Rugby, poule 2, Connacht Rugby, les Wasps, Toulouse et les Zèbres Rugby, poule 3, les Saracens, donc c'est pour la Champions Cup, je rappelle, c'est la coupe des plus balèzes, le RC Toulon, donc Saracens, RC Toulon, Scarlets et les Celtic Sharks, poule 4, Leinster Rugby, Montpellier, Northampton Saints, Castres Olympique, bon, Castres qui sont tout lourds, mais qu'est-ce qui branle. Et poule 5, Exeter Chief, AS Clermont-Auvergne, Ulster Rugby et Bordeaux Bègle. Après, pour la Challenge Cup, dont la poule des nids est un peu pourrie, nous avons poule 1, La Rochelle, Gloucester Rugby, Benetton, Trévise, Bayonne. Poule 2, les Ospreys, Grenoble, Newcastle Falcon, j'ai du mal, et Lyon. Poule 3, Brive, Worcester Warrior, Worcester, comme dirait certains, les Newport Gent Dragon et Any Saint STM, donc c'est le club russe ça. Après, poule 4, les Cardiff Blues, Bass Rugby, Pau, Bristol Rugby, et poule 5, les Harlequins, Edinburgh Rugby, Stade Français et les Timișoara Saracens. Alors je ne sais pas ce que c'est, je vais googler pour voir. Je crois que c'est une équipe étrangère, je crois. Ah oui, c'est l'équipe de... C'est des Roumains, je crois. Oui, c'est ça, voilà. C'est le... En fait, c'est assez simple à expliquer. C'est... Le nom des Saracens vient en fait de la vraie équipe anglaise des Saracens. Donc en fait, ils ont une sorte de filiale. On appelle ça comme ça pour schématiser. Donc c'est la filiale, voilà, roumaine des Saracens. Dit comme ça, ça fait très, c'est très corporate. Et en fait, c'est les deux clubs avec le club russe qui ont battu des clubs italiens pour se qualifier pour la Challenge Cup. Voilà, c'était pour dire que les clubs italiens, ça va fort, quoi. Après, donc, je vais prendre entre les deux. Hein. Donc, le 15 octobre, nous avons la première journée. Le 21 octobre, deuxième journée. Le 10 décembre, seconde journée. Le 17 décembre, quatrième journée. Le cinquième journée a lieu le 14 janvier. Et 21 janvier pour la dernière journée. Après... Gros gap, on passe le 30 mars et début à 1er avril, voilà, vers le 1er avril, pour les quarts de finale, et les demi auront lieu autour du 21 avril. La finale, c'est assez simple, donc pour le Challenge Cup, c'est le vendredi 12, ça doit être donc en soirée, et le 13 mai la Champions Cup, voilà, et ça aura lieu à Murrayfield en Angleterre. Donc c'était tout pour moi. Donc maintenant on va passer au top 14. Parce qu'on sait que vous l'aimez bien le top 14. C'est magnifique. Donc je ferme les liens au fur et à mesure. Voilà. Donc on va passer, avant de passer la nouvelle saison, on va passer aux matchs amicaux. Les résultats que j'ai pu avoir. Je vais recharger la page pour voir s'il n'y a pas eu une mise à jour. Et non, il n'y a pas eu de mise à jour. Donc c'est assez simple. Donc il y a eu Soyo Angoulême qui monte donc en Pro D2 contre Pau. 12-41. Nous avons eu Biarritz Dax 17-26. Montauban Colomiers 30-26. Bourgoin-Jallieu Lyon 5-36. Perpignan Narbonne 0-21. Bravo Perpignan. Biarritz Bordeaux-Bègle 24-47. Mont-de-Marsan, Pau, 21-29. Aviron, Bayonnais, Zèbre Rugby, 28. Pardon. La Rochelle, Brive, 12-5. Montauban, Béziers, 21-5. Grenoble, Agen, 27-35. Toulon, Stade Français, pardon, 40-12. Stade Français, Racing, 21-35. Carcassonne et Vannes, donc l'équipe qui monte en Pro D2, 24-19, pardon, Castres, Aurillac, 31-16, Biarritz, Béziers, pardon, Perpignan, 19-26, Aviron, Racing Métro, Racing 92, 14-29, Grenoble, Lyon, 19-17, Montpellier, Connard, 21-19, Agen, Montauban, 17-22, Oyonnax, Aurillac, 30-12. Et après, j'ai plus les scores, mais il reste quelques matchs, pas mal de matchs amicaux. Il doit rester, normalement, La Rochelle, techniquement, ils sont joués là, donc il devrait y avoir les scores. La Rochelle-Bordeaux, Brive a gagné, ça je le sais. Bordeaux-Worcesters, Toulon-Toulouse, Soyo-Angoulême-Bourgoin et Narbonne-Colomiers. Et ensuite, nous avons Provence de Rugby, Carcassonne, Castres, Northampton, Dax. Mont-de-Marsan qui a eu lieu pendant, ben, je crois que c'est pour les fêtes de Dax. Donc je crois que je l'ai vu passer, c'est Mont-de-Marsan qui a gagné. Biarritz, Vannes, c'est demain ça. Et pour finir la saison, donc il n'y a plus de match pour les grosses équipes de top 14. Parce que vous allez le voir, ils reprennent le 20. Donc nous avons Oyonnax contre Provence Rugby, Perpignan, Carcassonne. Agen, Albi et Colomiers Auch, normalement. Donc voilà, donc, c'était les matchs amicaux. Donc pour la nouvelle saison de Top 14 et Pro D2, il y a des nouvelles règles. Alors je ne sais pas si elles sont toujours toutes applicables en Pro D2 ou pas. Donc normalement, en mêlée, donc les mêlées effondrées ne seront plus à rejouer. On verra, des fois les règles sont un peu modifiées en cours de saison. Et il faut 30 secondes pour que la mêlée se mette en place maximum. Vidéo, diminuer les trop nombreux arrêts de jeu. Donc la vidéo devrait être moins utilisée normalement. Et les rucks, maintenant on va favoriser les attaquants. Voilà, c'est les nouvelles règles entre guillemets, parce que c'est plus des, j'ai l'impression, des adaptations. aux règles qu'autre chose. Donc, après, nous avons donc le calendrier de la Pro D2. C'est très simple. Donc, on commence le... où c'est qu'il est ? Il est là. Je me trompe. Donc, nous, on commence le 20 août. Il n'y a pas de trêve avant quelque temps, je pense. Il n'y a même pas de trêve pour la Noël. Donc, pour dire, on joue même le 24 et le 31. Il doit y avoir quelques trêves pour le, du coup, la Coupe d'Europe, mais c'est tout. Et les barrages ont lieu le 19, 20, 21 mai. Les finales le 27, 26, 27, 28 mai à Marseille. Et la finale, toujours au Stade de France, le 4 juin. À noter quelques petits détails que j'ai notés par là, parce que je n'ai pas fait de déclaration cette fois. Il y a eu pas mal de déclarations cet été. Bernard Laporte a dit des trucs, Vincent Etcheto a dit des trucs, René Bouscatel a dit des trucs, comme quoi il voulait peut-être se présenter à la FFR, si mémoire est bonne. Etcheto aussi a dit qu'il était mal vu là où il était, parce qu'il voulait maintenant essayer de sauver Bayonne après l'avoir fait remonter en top 14. Quelqu'un qui a de l'ambition, c'est bien. Après, il y a eu les déclarations aussi d'un médecin du sport, je crois, je vous laisse confirmer à 100%, qui disait que les joueurs avaient de plus en plus de commotions. Jimmy Cudmore est venu apporter un témoignage à cet état de fait. État de fait qui a été constaté, comment dire, que son ancienne équipe de Clermont, parce que maintenant il est passé à Lyon, a dit que non, c'était pas vrai. Donc voilà, à peu près ce qui s'est passé à l'intersaison. Bon, il y a eu d'autres trucs. Hein. Les équipes de Pro D2 qui devaient descendre ont toutes été sauvées, même si Bourgoin a 8 contrats bloqués pour l'instant. Pour le reste, c'est bon. Bernard Archila est arrivé à... est devenu président à Narbonne et à Biarritz. Finalement, on n'en a pas su tant que ça. Voilà. Donc pour l'instant, il s'en est passé pas plus que ça. C'est déjà pas mal. Donc, ouais, le top 14, donc on reprend le 20 août avec Bayonne, Toulon, Bordeaux-Bègle, Racing 92, Castres-Pau, La Rochelle, Clermont, Lyon-Brive et Paris-Grenoble et Toulouse, Montpellier. Donc c'est déjà une belle première journée, avec déjà les deux promus qui se déplacent et le champion qui va à Bordeaux-Bègle. Et déjà on a un Toulouse-Montpellier qui promet déjà. À noter que Toulouse reçoit pour les deux premières journées Bayonne aussi. Ça peut être déjà prometteur déjà, voilà. Donc c'est première journée le 20, le 27 août, le 3 septembre, 10 septembre. Je vois pas tout, 17 septembre, pour la cinquième journée, voilà. Maintenant, on va passer à la Pro D2, donc il n'y a pas eu beaucoup de... Donc tout le monde a été sauvé, voilà, c'est tout ce qui s'est passé, c'est déjà pas mal. Hein. Donc la Pro D2, elle reprend une semaine après, le 26, avec Albi Carcassonne, Béziers Agen, Biarritz Narbonne, Bourgoin Colomiers, Dax Aurillac, Oyonnax, Angoulême, donc ça c'est vraiment le match, donc c'est avec un qui descend de la Pro D2, du top 14 pardon, et un promu de Fédéral 1, le match promet, Perpignan, Mont-de-Marsan, et Vannes-Montauban, match qui promet, voilà aussi. Donc c'est le 26, après nous avons le 2 septembre, 9 septembre, 16 septembre, et 23 septembre. Tout ça pour dire aussi que maintenant je vais essayer de me caler au week-end, parce que vous savez, la Pro D2 se passe généralement avec des week-ends, avec ces 5 journées pause, 5 journées pause, 5 journées pause, voilà, en alternance. Donc je vais essayer de caler le podcast maintenant sur la journée de pause de Pro D2. Après, je vais essayer de bouger selon l'actualité, genre avant le tournoi, avant les gros événements, si je peux, ou juste après, pour pas qu'on prenne de retard, ou que, voilà, pour essayer d'avoir le maximum de contenu frais. Donc, pour l'instant, je vais essayer de me caler sur la journée de pause de Pro D2, voilà. Parce que c'est un championnat que j'aime beaucoup, donc, c'est pour ça. Et, pour finir aussi, donc, les demi se passeront pour la Pro D2 les 13 ou 14 mai, Et la finale sera le 20 et 21 mai. Donc c'est à peu près, c'est légèrement plus tôt que cette année. Voilà. Parce que cette année, c'était le 27 mai ou quelque chose, un peu plus, je crois. Peut-être début juin, c'est quelque chose comme ça, quoi. Parce que la Coupe du Monde, je crois qu'il y a eu un petit peu de pause, mais... Donc ben voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Donc on se retrouvera bientôt pour faire le compte rendu de cette nouvelle saison de rugby qui va très bientôt commencer. Je vais vous laisser avec une petite musique que j'ai captée lors du tournoi de rugby à 7 à Albi. Tournoi de rugby à 7 que j'ai légèrement commenté dans un hors-série qui est sorti en même temps que cet épisode. Je vous laisse l'écouter, il est entièrement consacré au rugby à 7, et plus particulièrement, au rugby à 7 à Rio, voilà, excusez-moi. Écoutez, je vais vous laisser avec ça. Merci d'avoir écouté cet épisode, et merci à vous si vous voulez écouter le nouvel épisode, l'épisode hors-série, donc. Écoutez, voilà, donc c'était Gandalf80, @Gandalf81 sur Twitter, je ne l'ai même pas dit dans le hors-série pour dire que je suis un peu branleur. Donc, je vous laisse voilà, profiter de cette nouvelle saison de rugby. Je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez suivre l'actualité plus à cœur, je vous recommande aussi deux podcasts, voilà. Donc, il y a l'ASM Cast, ASM comme l'équipe de l'ASM Cast, qui est un podcast entièrement consacré à ces gros losers de l'ASM. Il y a toujours des gens pour le suivre, je comprends pas. Et après, vous avez donc Tchic-Tchac, qui était concurrent face à moi lors des PPA, donc les Podcast Awards, qui viennent de s'achever, mais il n'y a pas les réponses. Je verrai si je vous applaudis ou pas, si vous avez voté pour ma bande de connards. Donc Tchic-Tchac, qui est un podcast plus débat, parce que moi je suis tout seul, donc faire un débat avec moi tout seul... Si, sauf qu'il y a les... De Cromière ou Bouscatel ou Bougelal ou Laporte qui dit une connerie là, je peux me lâcher, mais sinon, enfin, plus distellement que pff, à force, c'est comme si on pissait un violon. Eux ils font du débat, ils sont trois, si ma mémoire est bonne, ou un peu plus, ils essaient de faire des interviews, tout ça, ce que je ne fais pas parce que je suis un gros branleur, mais moi par contre je vous donne les scores, et même presque, j'ai presque envie de dire je réfléchis, et c'est pas grave. Donc voilà, je vous laisse sur ces podcasts là si vous voulez vous renseigner semaine par semaine, parce qu'eux ils sont, voilà, ils en font quasiment toutes les semaines. Hein. Moi, je fais ça pas souvent et j'ai un vrai flux RSS. Donc, voilà, je vous laisse avec ces deux podcasts. Donc, ils sont bien, je rigole, mais ils sont bien. Ils font du bon boulot. Voilà, donc écoutez, on se retrouve dans un peu plus de 5 semaines, voilà, à peu près. Écoutez, je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao!
mais on est bien rigolé, on est bien rigolé.